L'un a traversé le XXe siècle, l'autre commence juste sa route. Aujourd'hui, hommage à Claude Vigée avec Anne Mounic et naissance d'un poète avec Simon Johannin.
La compagnie des poètes par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h. Anne Mounic et Simon Johannin, bonjour, bienvenue à tous les deux. Grand écart temporel aujourd'hui, dans tous les sens du terme. Tout à l'heure, il sera question du poète Claude Vigée, disparu le 2 octobre dernier à l'âge de 99 ans, avec vous, Anne Mounic, qui lui avait consacré une somme vertigineuse d'écrits, critiques et autres entretiens éveillés depuis au moins une dizaine d'années maintenant à la connaissance et à la circulation de son œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs, avant qu'on revienne donc sur son œuvre, hein, qu'est-ce que ça veut dire que de veiller sur une œuvre? Pourquoi veiller sur celle-là?
Bien, la rencontre avec Claude Vigée a été une rencontre importante pour moi et je pense que son œuvre n'a pas été complètement perçu dans son intégralité, et j'aimerais bien, c'est pour ça, veiller sur son œuvre, c'est essayer de si vous voulez, à chaque fois que l'on travaille sur une œuvre, on découvre des choses nouvelles, et j'aimerais bien les faire connaître et restituer la cohérence de l'œuvre. Alors j'ai eu de nombreuses conversations avec Claude Vigée chez lui au téléphone, et à chaque fois j'ai appris des choses nouvelles, et je pense que nous avons échangé. J'ai moi-même une œuvre poétique, et tout à l'heure, peut-être que j'axerai notre propos sur deux mots, conscience et confiance. Ce sont des mots qui sont en assonance, hein, et en allitération, si on reprend des notions poétiques. Mais je crois qu'elles sont qu'elles fondent à la fois, si vous voulez, le nerf de son œuvre, et en même temps la façon dont les gens qui l'écoutent, qui sont séduits en quelque sorte, c'est le fondement de son partage en quelque sorte. Voilà.
Alors Claude Vigée est né en 1921, vous en 1993, Simon Johannin. Pardonnez-moi, jusqu'à quand diriez-vous qu'on est un jeune écrivain? Alors je dis ça parce que dans les papiers, les entretiens qui vous concernent dans la presse, on a beaucoup brandi votre très jeune âge lors des premières publications. Je me demandais si c'était encore le cas, et donc si pour vous d'ailleurs c'était encore le cas, jusqu'à quand est-ce qu'on est un jeune écrivain ou un jeune poète, si tant est que la réponse soit la même d'ailleurs pour les deux?
Je sais pas, je pense qu'en tout cas si je continue d'écrire, j'en ai pour une bonne vingtaine d'années. Parce que je rencontre moi je pense que je suis un tout jeune écrivain, un jeune écrivain à plus 35-45 ans, je pense, dans l'imaginaire collectif. Après j'en sais rien, on peut être jeune et avoir une vieille âme. C'est parfois mon cas, j'en ai l'impression. Mais un jeune poète, ça dépend plus à quel âge on meurt, je pense.
On va en parler justement. Alors vous avez 27 ans, un premier roman, disons, rural et en tout cas furieux, qui était L'été des charognes, hein, qui avait beaucoup marqué en 2017, suivi d'un très noir et très urbain, celui-là, Nino dans la nuit, écrit à quatre mains avec votre compagne Capucine. Et puis aujourd'hui, ce presque premier recueil de poèmes, Nous sommes maintenant nos êtres chers, toujours aux éditions Alia. On sait que pour vous, alors j'ai dit presque premier recueil parce qu'il y avait déjà d'abord une toute petite publication, on peut dire confidentielle, sans froisser personne. Vous reprenez d'ailleurs quelques-uns des poèmes qui étaient dans ce premier recueil. Et puis ensuite, ces deux romans. Est-ce qu'il fallait en passer par le roman pour vous sentir, je ne sais pas, plus légitime à publier les poèmes? Est-ce que en passer par le roman vous a autorisé d'une certaine façon à publier ces poèmes?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que avoir fait des romans avant aide à ce que les poèmes trouvent un écho. Maintenant, j'ai commencé à écrire des poèmes avant de faire du roman, et je pense que c'est vraiment, les poèmes qui composent le recueil Nous sommes maintenant nos êtres chers, ils sont écrits de manière sporadique sur presque une dizaine d'années. Donc c'est plutôt, je pense que au bout d'un moment, dans le travail, je me suis rendu compte qu'il y avait un ensemble qui se formait et qu'on pouvait potentiellement en faire un livre. Enfin, qu'il y avait quelque chose qui se dégageait de la la masse des poèmes que j'écris, pas du tout quotidiennement, mais en tout cas de temps en temps. J'étais arrivé à une certaine, un certain corps, quoi, avec tout ça. Et ça faisait sens de le faire après les livres, parce que pour moi, c'est comme clore un chapitre où les thématiques sont un peu les mêmes, mais avec les poésies, je les aborde de manière beaucoup plus franche et nue. Beaucoup plus symbolique et voilà, c'était comme ça, fonctionne un peu comme un triptyque, c'est un peu comme une manière peut-être d'en finir avec un certain esprit adolescent, avec voilà une naïveté, une fureur qui était très présente dans les deux premiers romans et j'en sais rien, mais peut-être que c'est le signe que je vais passer à autre chose.
Vous voyez, vous êtes déjà un vieux poète. Ouais. En finir avec l'adolescence, est-ce que vous voulez bien nous en lire quelques-uns,
oui,
s'il vous plaît?
Au commencement, il était toi qui coule sur les garçons. Il était une robe verte, une bouteille d'alcool blanc, les ruelles d'une ville où chaque soir les étoiles se rendent. J'ai cueilli pour toi des fleurs et des médicaments. J'ai fait bleuir ta peau en la serrant trop fort. On ne faisait pourtant rien d'autre que bagarrer l'amour. Tes yeux dérobés sous la gêne et le rire me pliant encore l'âme sur ce vieux matelas, à chaque fois remonte le souvenir. Le reste ne me vient plus, seulement le soleil marchant sur ma nuit, lorsque tard je dors encore. L'argent qu'on te propose, les choses que je vole, la vodka et les extraterrestres qui, tapinant, se claquent le cul sur mon passage. Des crinières blondes, rousses, brunes, de ces génies des rues. Elle danse le poignet cassé, en avant. Elle n'a pas de ventre et beaucoup d'espace. La nuque pliée, elle fait tomber l'histoire dans l'eau de son corps et commence. Elle saute, ses lèvres se touchent par instant, pour qu'apparaissent les temps et les restes. Prenez conscience, mes bons gros chauds. Prenez conscience que sous la cabine de verre, le monde regorge de sentiments. Il fait très chaud. Nous marchons dans la rue. Soudain, entre deux voitures, elle enlève sa culotte et la range dans son sac. Il fait chaud. Nous marchons.
Merci. Merci beaucoup. Alors, les poèmes sont là d'une certaine façon déjà dans les romans, parce que c'est vrai qu'on retrouve des motifs dans les deux, hein, et dans les deux premiers romans, et puis dans ce recueil de poèmes, on y retrouve des corps jeunes, hein, des corps impatients, des corps précaires, le désir, la vodka, les chiens, la fête, l'ivresse, le sang, le rêve, la rue, la nuit, beaucoup, les rencontres, les déclassés, les bagarres, l'amour, beaucoup, et puis cette écriture qui en passe par l'image, hein, comme une sorte de, ouais, de relevé de sensations. Au fond, on a le sentiment, en lisant, si on a la chance d'avoir lu les trois, on a un peu le sentiment que les poèmes étaient une sorte de... Enfin, ces poèmes-là sont une sorte de précipité de vos romans. Et d'ailleurs, les poèmes eux-mêmes, même s'ils sont très organiques, semblent très essorés, à ras. On l'a entendu là à vos lectures, hein, ils sont souvent très très courts, parfois simplement un vers ou deux ou trois vers. Est-ce que ça veut dire que écrire pour vous, c'est retirer, c'est soustraire? Est-ce que c'est là le mouvement de votre écriture?
En tout cas, purement dans la méthode de travail, j'arrive et on arrive avec Capucine à quelque chose de
Capucine simple. Qui est votre compagne, ouais, avec qui vous avec avez qui, signé le dernier.
Ouais, avec qui j'ai écrit Nino dans la nuit, avec qui je travaille, qui est présente sur tous les projets que je fais, c'est quand on arrive à ce qui reste, une fois qu'on a enlevé tout ce qui semblait superflu, qu'on tient quelque chose peut-être. Donc c'est vrai que ce geste d'enlever tout ce qui n'est pas nécessaire, il est essentiel autant pour le roman que pour la poésie. Et voilà, c'est d'arriver à ce qui tient envers et contre tout, et qu'est-ce qui reste une fois qu'on a enlevé tout. Toutes les scories, toutes les vieilles peaux, tout ce qui est nécessaire à la construction d'une histoire ou d'un poème. Et voilà, le but, c'est vraiment d'arriver à quelque chose d'assez essentiel. Ouais.
C'est quoi le gras? C'est quoi les scories?
Ça dépend. C'est-à-dire que souvent, quand j'écris, il y a un gap qui se fait entre ce que ma tête voudrait écrire et ce que mes mains écrivent. Il y a toujours des choses qui se mettent en plus ou en trop. Il y a beaucoup de remaniements. Et c'est ce qui ne reste pas avec le temps à la lecture aussi. Ce qui est trop versé dans le sentiment, parce que même quand on parle de sentiment, il y a un moment donné où on peut dépasser certaines limites. C'est un peu le risque. C'est toutes ces choses-là et tout ce qu'on finit par ne plus aimer aussi à un certain moment, tout ce qui n'est pas nécessaire en fait.
Alors lire ses poèmes, c'est un peu lire un album de souvenirs fulgurants, voire un album d'images, et l'image chez vous, elle fait écrire.
Que je vous aime. Regardez, je commence à être saoule et je bégaye. Et c'est absolument horrible parce que ce que je dis, je le pense réellement. Et je pourrais rester tout le temps avec vous, tellement je me sens heureuse. Je me sens aimée par vous deux. Et l'autre qui me regarde avec ses yeux en couille de mythe, d'un air sournois en pensant « Oui, ma petite, tu peux te reposer, mais je t'aurai. » Je vous en prie, Alexandre, je joue pas la comédie, mais qu'est-ce que vous croyez? Pour moi, il n'y a pas de pute. Pour moi, une fille qui se fait baiser par n'importe qui se fait baiser n'importe comment n'est pas une pute. Pour moi, il n'y a pas de pute, c'est tout. Tu peux sucer n'importe qui et se faire baiser par n'importe qui n'est pas une pute. D'accord. Il n'y a pas de pute sur Terre, putain, comprends-le. Et tu le comprends certainement. La femme qui est mariée, qui est heureuse, et qui rêve de se faire baiser par n'importe qui, par le patron de son mari, ou par je ne sais quel acteur merdique, ou par son crémier, ou par son plombier, parce que c'est une pute. Il n'y a pas de pute. Mais qu'est-ce que ça veut dire, pute?
La voix de Françoise Lebrun, Véronica dans La Maman et la Putain, de Jean Eustache, en 73, mise en musique par Diabolo Gomme en 96. Vous étiez à peine né, Simon Johannin. Un titre que vous avez choisi moins pour Eustache que pour Diabolo Gomme.
Je pense que c'est la seule production que je connais de Jean Eustache et la seule production que je connais de Diabolo Gomme. Donc il y a une égalité. Maintenant, c'est vrai que quand j'ai cherché les archives, je suis retombé là-dessus et en fait c'était deux bouleversements, la découverte du film et la découverte du morceau. Ça a été hyper fort les deux fois, quoi. Et puis c'est quand même ça, ce monologue final est complètement fou, enfin tout est fou dans le film, mais là vraiment on touche à quelque chose qui est de l'ordre de la grâce pour moi, quoi.
Alors, L'été des charognes était parti de l'image aussi, hein, le roman, le premier roman, parti de photographie. Nino dans la nuit était aussi porté par des images. Nous sommes maintenant nos êtres chers procèdent d'une certaine façon par scène aussi, ou par souvenir de scène, hein, ou parce que vous pouvez éventuellement récupérer comme bout de souvenir de scène. Qu'est-ce qui se joue pour vous dans ce passage de l'image au texte, hein?
Je sais pas encore, en fait, ça fait vraiment partie de nos recherches, des miennes et celles de Capucine avant qu'on travaille ensemble, et depuis qu'on travaille ensemble, c'est complètement au cœur de tous les projets. En fait, c'est une histoire de narration. C'est comment raconter une histoire avec des mots ou des images. C'est toujours un peu la même chose. Là, nous sommes maintenant dans cette recherche. Il y a toujours cette idée de raconter une histoire, de la raconter à travers des petites scènes qui sonnent comme des images où il y aurait encore un petit peu de mouvement à l'intérieur. Voilà, comme des quelques photogrammes mis les uns à côté des autres. Maintenant, je sais pas encore sur quoi je vais tomber, mais c'est ça qui m'intrigue, en fait. C'est là où l'émotion, les sensations naissent chez moi, et donc ça me travaille, et j'essaie de d'apporter des réponses qui sont sensorielles, parce que je fonctionne pas tellement à l'intellect dans le travail. Je suis dans quelque chose qui est très à fleur de peau, qui est très dans la sensation physique, et ensuite voilà, on voit ce qui reste et qu'est-ce qu'on peut transmettre et donner à la lecture avec tout ça.
Sans remettre alors aux images, est-ce que c'est alors on a bien compris que ça pouvait être aussi une impulsion narrative, hein, de commencer de partir de l'image, mais est-ce que c'est aussi une façon, au fond, je ne sais pas, de ne pas faire confiance aux mots, ou de ne pas faire confiance au texte, ou c'est aussi prendre acte de la génération qui est la vôtre et qui a été tout autant nourrie aux images que nourrie aux mots, peut-être même davantage nourrie aux images qu'aux mots.
Oui, c'est sûr que nous, en tout cas moi je fais partie d'une génération où on a autant l'habitude, même plus, de manipuler les images au quotidien que les mots, et on est beaucoup plus performant souvent avec les images qu'avec les mots. En tout cas, je le sens, ne serait-ce qu'à travers mes lectures, qu'on a beaucoup perdu en termes de langage, en termes d'instruction. On est beaucoup plus fragile, je pense, dans le texte quand on a mon âge aujourd'hui que quand on avait 25 ans il y a 50 ou 60 ans, où l'instruction était beaucoup plus rigide et qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Mais qu'est-ce que vous avez perdu?
Je pense du vocabulaire, de la grammaire, de la structure grammaticale, tout ça c'est des choses. Moi je, par exemple, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de fautes, qui a besoin de beaucoup retravailler pour arriver à quelque chose qui est grammaticalement correct. C'est pas du tout quelque chose qui est facile pour moi. Même des fois, comme j'écris souvent à l'ordinateur, je fais des fautes de frappe où je mets phonétiquement un mot à la place de l'autre parce qu'il sonne pareil dans ma tête et que j'écris vite, et des fois ça donne des phrases qui ont aucun sens. Il faut vraiment que je me relise pour comprendre ce que j'ai voulu écrire. Je pense que c'est pas du tout les mêmes mécanismes d'écriture que ceux desquels on est héritier. Mais pour en revenir aux images, je pense que c'est aussi un rapport à l'intimité, en fait, parce que c'est ce qu'on garde des autres beaucoup plus aujourd'hui que leurs mots. Et mais c'est vrai que moi, quand je me replonge dans mes courtes et petites archives, elles sont essentiellement visuelles. Et donc je pense que tout ça, ça joue sur le fait de vouloir faire naître à tout prix des images en écrivant. Et de Capucine, la première fois qu'elle a lu le recueil des poésies, elle m'a dit: mais j'ai l'impression de voir un album de photos souvenirs. Et c'est vrai qu'il y a, alors c'est pas forcément des souvenirs partagés, mais c'est vrai qu'il y a cette idée là, quoi, de retransmettre des choses dont on n'a pas gardé la mémoire par l'image, et donc le texte permet de ne pas les perdre et aussi de les transfigurer pour arriver à quelque chose qui n'est plus exactement ce qu'on a en soi, mais qui est suffisamment intéressant pour qu'on le donne à lire aux autres.
Vous faites bien. Ça titube pas mal aussi, littéralement et formellement, hein, dans vos poèmes en tout cas. Qu'est-ce que c'est que l'ivresse pour vous, qui est un motif qui traverse ces poèmes, mais qui travaille aussi les deux textes précédents? Et je ne parle pas seulement de la vodka, mais en tout cas, ce motif-là est là. Ce motif-là est là comme sensation. Qu'est-ce que c'est, au fond, que l'ivresse pour vous, dès lors qu'on parle de littérature? Est-ce que c'est une expérience presque plastique?
Oui, en tout cas, je pense que l'ivresse au sens littéraire, tel que j'ai pu quelquefois, toute petite fois, l'expérimenter dans l'écriture, c'est un délire pour moi. C'est vraiment un délire. C'est le moment où d'un coup, il y a un champ de liberté qui s'ouvre, qu'on soupçonnait pas, et dans lequel on s'engouffre et on se met à faire quelque chose dont on ne savait pas du tout qu'on était capable de le faire la minute d'avant. Parce qu'il y a une mise en état dans le travail, parce qu'à un moment donné, on fait chauffer la machine. Et puis elle finit par s'emballer, et puis on va beaucoup plus loin que ce qu'on pensait vouloir aller. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, en tout cas dans la forme, c'est de pas essayer d'imiter quelque chose, mais de laisser la place à l'inattendu, de descendre en soi et d'un coup de se laisser surprendre par ce qu'on fait malgré soi. Enfin, en tout cas, moi souvent je le fais malgré moi, quoi. C'est après coup, je m'en rends compte, j'ai pas tant que ça la sensation que ce que je fais m'appartient. Aussi parce qu'il y a beaucoup de collectifs dans le travail. Mes textes sont beaucoup lus. Il y a des textes que j'écris parfois à plusieurs. Donc ça dépend vraiment. Mais en tout cas pour la poésie, souvent il y a des textes dans le recueil, je me souviens absolument pas de qu'est-ce qu'ils veulent dire exactement et de quand je les ai écrits. Mais il y a quelque chose qui tient. Alors du coup, je les ai gardés.
Parce qu'il y a quelques poèmes qui datent. Alors vous, ça doit vous sembler très loin, mais de 2013, 2014,
ouais, pour je les pense. Premiers, ouais.
Pour les premiers, vous parlez d'expériences collectives. Finalement, c'est ce qu'on retrouve aussi quasiment dans chacun des poèmes. C'est-à-dire qu'il y a peu de poèmes qui rendent compte d'une expérience solitaire. Quasiment tous sont des poèmes de rencontres, ouais. Ou en tout cas des souvenirs de rencontres, de rencontres de corps, beaucoup. Ça passe beaucoup par le corps. Et à propos de corps, vous avez choisi, Simon Johannin, une archive un peu particulière. C'est Juliette Gréco répondant à Jean-Marie Cavada dans La Morge du siècle. On est en septembre 92.
En 1946, Juliette Gréco, vous croisez Boris Vian. Comment ça se passe? Quelle impression vous fait-il presque instinctivement, presque immédiatement? À quoi ressemblait-il physiquement au fond?
Il était d'une grande beauté. Il était d'abord d'une très grande beauté et d'une beauté très étrange, d'une beauté archangélique. Il avait un teint tout à fait curieux, une peau extrêmement tendue. Un peu avec des reflets verdâtres, comme une opaline, et des yeux extraordinairement profonds, lourds, précis. Il avait un charme fou. Il était d'un autre monde.
Cet extrait-là, donc c'est Juliette Gréco, c'est Boris Vian, mais c'est surtout l'écriture d'un corps qui se fait là, devant nous, en direct, devant nos yeux.
Oui, c'est ça. Et puis, en fait, quand je suis retombé là-dessus, ça m'a fait penser à l'importance de la beauté des poètes dans la connaissance qu'on a de leur travail. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de poètes que, en tout cas, moi, j'ai découvert d'abord par leur physique.
Vous pensez à qui ?
Je pense à Rimbaud, je pense à Lord Byron, à Shelley, et Boris Vian aussi. Boris Vian, j'ai d'abord vu une photo de lui avant de lire ses livres adolescents. Et aussi parce qu'à la fin, elle dit il était dans notre monde. En fait, ça m'a plu. Je trouvais ça beau et vrai. Et puis parce que Boris Vian, ça fait partie des auteurs où pour moi la poésie est complètement infusée dans tout ce qu'il a touché, quoi. Ça dans la musique, dans les romans, dans les opéras, donc c'est partout, ça jaillit de partout et moi ça me rassure parce que on est dans quelque chose de joyeux quand même et de complètement libre.
Comment est-ce que vous vous décririez ?
Moi ? Mm-hmm. Je sais pas trop. Je sais pas quoi vous répondre. Je dirais que je suis un peu trop versé dans la mélancolie parfois. Et incapable de solitude aussi.
Oui, ça se lit.
Ouais.
Ça se lit dans vos textes. Vous parliez de la beauté des poètes. J'aurais pu demander à Anounik d'ailleurs de vous décrire.
C'est difficile. Je l'ai rencontré tout à l'heure en bas, donc on a fait connaissance tout de suite. J'ai vu une grande silhouette arrivée avec une grosse valise, et puis bon, là je vois vos yeux qui brillent, voilà, c'est peut-être l'éclairage d'ici, mais ça donne dans vos yeux une lueur qui est bienvenue et qui donne une ouverture à votre visage, comme si les yeux rayonnaient, vous voyez, comme des étoiles au milieu de votre visage.
Je prends.
C'est vrai ? C'est gentil, c'est vrai.
Alors, puisqu'on parlait de visages, de corps qui sont très très présents dans votre littérature de manière générale, même si c'est pour le moment une courte littérature, mais en tout cas dans les trois textes qu'on vous connaît, qu'est-ce qu'il en est de ces corps si présents et des corps grandis, comme vous l'avez fait dans un hameau au pied de la montagne noire, à la frontière entre l'Aude et le Tarn, pour être précis pour ceux qui connaissent, des corps qu'on imagine en liberté, en même temps que des corps très contraints par l'isolement, c'est ça, les corps de votre adolescence ?
La liberté était totale, mais dans le périmètre auquel on avait accès. C'est-à-dire que c'est tout ça le paradoxe de l'isolement et du milieu rural, c'est-à-dire que très jeune, on est forcé d'avoir une grande autonomie, et donc on peut parcourir, arpenter un territoire qui, à la limite de là où peuvent nous porter nos jambes, tout simplement, quoi. Maintenant, donc je pense que c'est en tout cas tel que je l'ai vécu pour l'enfance et l'épanouissement, c'était absolument extraordinaire. Et puis petit à petit, en fait, on se retrouve oppressé par cet environnement qui a ses limites très rapidement. Et puis moi, c'était l'appel de la ville au bout d'un moment donné. C'est là où j'avais besoin de projeter mon petit corps à moi. Mais je pense, après, c'est vraiment une question de sensibilité. Et je pense que le rapport au corps, il est aussi dû au fait que là où j'ai grandi, j'avais tout un tas de personnes autour de moi qui, soit par le travail, soit par les drogues, soit par la rue, soit par plein de parcours plus ou moins accidentés, avaient des physiques impressionnants. En tout cas, moi, qui m'impressionnais, j'ai le souvenir de gamin d'être face à des types qui avaient l'âge que j'ai aujourd'hui, qui avaient déjà 10 ans de rue dans les pattes et qui étaient à la fois musclés, abîmés, qui étaient des modèles de masculinité qui moi m'impressionnaient beaucoup. Moi qui étais très androgyne pendant très longtemps. Je pense qu'il y a un début de fascination qui est venu là-dedans, et sur un appel d'une force que j'avais pas, d'une force physique qui me faisait défaut et qui dont je ne savais pas si j'allais en être dépositaire un jour. Donc je savais pas vraiment si j'allais complètement devenir un homme, je pense, jusqu'à ce que la puberté arrive. Et donc tout ça s'est mélangé, est resté, s'est sédimenté. Puis il y a eu d'autres choses qui sont passées depuis. Mais je pense que voilà, c'est vraiment ce regard porté sur des corps qui me dépasse complètement, qui fait qu'aujourd'hui peut-être j'ai gardé cet angle de vue.
Commencer à écrire, et vous l'avez fait très tôt, hein, c'était aussi une façon de se donner un corps.
C'est une façon de s'occuper surtout.
C'est l'ennui qui vous a fait écrire?
Ou en tout cas, c'est l'ennui qui a laissé la place pour que plus tard j'écrive. Mais forcément, quand on s'ennuie, on se raconte des histoires. On commence par ça. On essaye de construire de l'inattendu et de l'exceptionnel avec tout ce qui est banal et quotidien. Et donc, je pense que ça développe des mécanismes et des facilités pour arriver à construire des récits et à inventer des choses. Après, quelle que soit la manière dont la créativité se développe. Je pense que si j'avais eu aucune frustration d'aucune sorte, je me serais contenté de vivre sans jamais rien proposer. Je pense que c'est aussi en réponse à tout ça qu'on essaie de combler quelque chose, tout simplement. Mais
alors j'imagine qu'il n'y avait pas que la littérature pour se sortir de l'ennui. J'imagine qu'il y avait d'autres tuyaux pour sortir de là et pour s'inventer autre chose. Vous en êtes passé d'abord par une école de cinéma, puis ensuite vous êtes passé également par l'école, par la Cambre, hein, à Bruxelles, là, qui était plutôt une école d'art. Mais la poésie, le poème, c'est quand même ce qui, en amont, démarre très tôt. Ouais. Et je me demandais si le choix de la poésie, ou le fait que ce soit ce qui soit resté finalement, si ça pouvait pas aussi être un choix politique, d'une certaine façon, que de maintenir la poésie, que de choisir la poésie, vous qui êtes passé par le cinéma, par les arts plastiques, et que, au fond, le poème, pour vous, en tout cas, ça serait la forme, je sais pas, peut-être la plus loyale, ou en tout cas le genre le plus débarrassé des questions de classe, en fait.
Je me suis pas posé la question comme ça. Je pense que c'est d'abord venu d'un sentiment de confort, en tout cas du fait d'être à l'aise. J'étais peu à l'aise. Mais je pense aussi par rapport à moi, à mon parcours et d'où je viens et du manque de connaissances et de d'appréciation des concepts plastiques. Je comprenais pas en fait ce qui se passait en école d'art autour de moi. Souvent, j'avais le sentiment d'être dans la tricherie quand je proposais des choses dont je ne voyais pas le fond. Et le fait de devoir construire un discours sur des choses dont je ne voyais pas le fond en amont me dérangeait profondément. Et donc c'est vrai que la poésie est venue. Et en tout cas, en plus, moi, je fais attention. Je m'en rends compte maintenant, petit à petit, à ce que mes textes soient accessibles. En tout cas, dans le vocabulaire, j'utilise. Mais sans, c'est pas. Encore une fois, c'est pas un choix politique. C'est venu comme ça. Je travaille naturellement avec un vocabulaire qui est simple. Voilà, quelque chose je sais pas. Moi, j'aime bien l'idée. C'est ce qu'on a essayé de faire aussi avec Capucine sur Nino dans la nuit, de faire un livre qui rentre dans la culture populaire. Voilà, qu'on puisse se passer, s'échanger facilement et qui quitte un peu les hauteurs où on peut confiner la littérature. Mais oui. Après, je pense que la dimension politique, elle est venue aussi dans le fait de pouvoir raconter des choses et des personnes dont je ne vois pas trop comment je pourrais le dire autrement que de manière poétique. En tout cas, de rendre une beauté que je vois chez des gens où on n'en voit pas forcément. Et pas dans un délire esthétique, mais vraiment dans la rencontre de comment j'ai pu être marqué par certaines personnes, que ce soit sur du temps long, de manière très éphémère, qu'est-ce que ça m'a apporté, comment j'ai pu y repenser, et comment je sais que si jamais moi je mets pas quelque chose dessus, ça sera nulle part.
Peut-être juste pour terminer, à propos de corps, je me demandais bien sûr comment vous viviez le moment présent, c'est-à-dire la fin de la nuit, et puis la fin des rencontres, les difficultés des rencontres des corps, justement, ou la rencontre des corps comme une menace.
C'est compliqué. C'est-à-dire que moi, en plus, ma culture de la nuit, des rencontres nocturnes, elle se passe souvent dans des cadres qui sont pas... ceux d'une très définie. En fait, on sait souvent dans des cadres underground, no illégaux. Et c'est vrai que même cela aujourd'hui, en fait, il y a des questions sanitaires. C'est d'autres questions qui rentrent en jeu. C'est très compliqué. Je pense qu'il y a plein de questions en fait qui naissent. On est complètement enseveli de questions et on n'a pas beaucoup de réponses. Mais c'est peut-être ça qui est intéressant. Maintenant, la fin de la nuit, elle est très triste. Elle est très triste. J'étais il y a deux jours dans un bar, forcé de rester assis, sans pouvoir aller au comptoir, et c'était vraiment déprimant. Rien que ça, voilà, on perd des gestes, on perd une culture, on perd quelque chose qui nous fait vivre, tout simplement, quoi.
Vous écoutez France Culture, la compagnie des poètes, par Manu Farid.
Ça va tonner sans transition, ou presque, hein, quoique, on écoute tout de suite un début du premier mouvement de la symphonie numéro 41 de Mozart, dirigée par Bruno Walter. C'est la symphonie dite Jupiter, un choix vôtre, Anne-Monique. On écoute. Qu'est-ce qu'une telle symphonie pourrait élucider de Claude Vigée à Munich ?
Alors, je vais commencer par vous lire le passage du panier de houblon dans lequel il raconte ça. Non, c'est pas dans un panier de houblon, c'est dans la faille du regard. Justement, j'y pensais par rapport à tout ce que vous disiez sur l'image. C'est un article qui s'appelle « Images et paroles dans l'esthétique juive ». C'est très intéressant. Alors, je vous lis le passage. J'avais 14 ou 15 ans. Nous venions de recevoir notre première radio. C'était à la campagne, en Alsace, vers 1935. L'oreille collée au haut-parleur, j'ai absorbé en moi-même, pour la première fois, une grande œuvre symphonique de Mozart, il y a un demi-siècle de cela. Cette audition providentielle ne m'a pas découvert seulement mon propre pouvoir de créer qui était encore en germe. Elle m'a révélé avant tout, comme a dit Goethe, une forme achevée qui, en vivant, s'accroît. Dans ce paradoxe se manifeste le devenir sans limite d'un musicien de génie. Jeune adolescent, j'ai vu avec l'oreille, c'est le terme exact, comment la profondeur muette, obscure, du cœur devient tout à coup lumière, monde, extériorité pulsante. Tout tard cette nuit, écoutant rire et souffrir mon Mozart, j'ai brûlé dans l'ultimité de son génie. Oui, c'est en écoutant la symphonie Jupiter de Mozart que le miracle a fondu sur moi comme l'aigre ou la foudre. Quel choc, quel bouleversement dans ma vie morose de collégien, etc., etc. Et j'ai acquis soudain le droit de me faire porter en avant par la volonté créatrice sur cette barque du souffle afin de me libérer avec elle, de laisser deviner en moi la voix humaine pour sauver l'existence même de l'homme à travers la parole qui le soulève et le pousse. Car c'est seulement dans la parole que l'homme accède à sa dignité véritable. Et là, c'était un jeune Claude Vigée, bon, disons jeune adolescente, puisqu'en 35, il avait, quelques rapides, 14 ans. Et si vous voulez, j'enchaîne avec ce qu'il a écrit dans un panier de houblon cette fois-ci, le deuxième tome, L'Arrachement, c'était en 1995.
Qui sont ses mémoires,
et surtout une évocation de l'Alsace, de ses parents, de sa famille, du judaïsme alsacien, et de la langue alsacienne aussi. Le passage du vivant est à sens unique. Mon incarnation, c'est celle-ci et pas une autre. Depuis Zébar, Haguenau, Bichwiller, ses meubles, ses débris, ses clans, ses aïeuls, ses parents, ses rêves éveillés depuis l'origine, tout ce monde-là m'investit, spécifique et précis. Moi-même, là-dedans, dès le commencement, avec mes acquiescements, mes refus, les oui et les non qui sont les flèches à deux sens du désir humain, à travers moi sans doute, le survenant a suscité ce petit univers pour son bon plaisir, à son intention personnelle, fait également de passion et d'indifférence abyssale pour passer à volonté de la boue à la nue, du ciel à la glèbe mouillée. Ne sommes-nous pas à la fois les chauffeurs galonnés et la Rolls-Royce de luxe du Créateur lorsqu'il fait du tourisme en ce monde qu'il a créé selon son bon plaisir? Tôt guéri, jamais assez tôt, du père et de la mère selon la chair, enfin dehors, enfin autonome, planté tout nu dans l'origine surgissante. Enfin, greffé solitairement dans mon être absent de venir, sans intermédiaire parental qui déterminerait à tort la courbe et l'objectif futur de mon élan, jaillir de la source, connaître le noyau pulsant initial et vide, seul porteur d'avenir, le désigner nommément en soi-même, le réveiller à travers les mots justes dans la conscience fraternelle d'autrui, enseigner désormais en son propre nom, avec humilité et tranquille incertitude, c'est du vivant qui parle, justement.
Merci beaucoup.
Je vais vous expliquer pourquoi je commençais par ce passage.
Alors, je vous en prie, allez-y.
Parce que, si vous voulez, si nous partons par un rappel biographique de la vie de Claude Vigée, nous nous apercevons qu'il est né, donc, comme vous l'avez dit, en 1921. Donc, en plus, connaissant, il a parlé d'abord le dialecte bas-alémanique, proche de l'allemand, hein, c'est une variation de l'allemand. Donc, il entendait sur Radio Stuttgart ce qui se passait en Allemagne. Et à partir de 1933, tout le monde sait ce qui s'est passé en Allemagne. Donc, il savait. En plus, ses parents ne s'entendaient pas. Sa mère était musicienne, d'où l'importance, si vous voulez, de la musique dans son œuvre et dans l'évolution de sa personne. Sa mère était musicienne mélancolique et son père, en contraste, était plutôt le genre joyeux, hein, mais il a aussi plutôt rejeté son fils. Ce contraste-là a sûrement aiguillonné sa personnalité, l'a porté à la réflexion. Parce que bon, on fait le point. Des parents qui ne s'entendent pas, une histoire qui s'annonce comme terrible. La traversée de la Shoah. Ensuite, bon, donc l'exode avant, hein, en 1939, il était à Deauville, il n'est pas rentré en Alsace. Il savait que c'est avec sa famille et la famille de sa future femme Evelyne, ils ne sont pas rentrés. Ça a été l'exode. Il est d'abord resté un peu en Normandie, à Deauville, et puis ensuite ils sont descendus jusqu'à Toulouse. Là, c'est la résistance. Et ensuite, il a appris par un ami alsacien qu'il était sur les listes recherchées par Vichy, donc l'exil. Il a fallu déjà, pour pouvoir partir, avoir tous les papiers, qu'il se démène pas mal. Donc la résistance, l'exil. Il arrive au début 1942 en Amérique. Il se trouve à l'arrivée en même temps que des gens qui venaient d'Allemagne mais qui n'étaient pas du même bord. Donc ça veut dire qu'il pouvait croiser en allant au réfectoire, ça il me l'a dit, des gens qui faisaient le salut hitlérien. Donc c'était, vous voyez, enfin tout ça a été d'une confusion extrême. Le chaos que nous vivons actuellement, je crois que c'est rien à côté. Et alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'ensuite, bon, ça a été l'Amérique. Il a soutenu son doctorat en 1947. La même année, il a épousé Evelyne, qui était sa cousine germaine, si mes souvenirs sont bons. Et ensuite, des longues années d'ennui, il revenait tout de suite pour les vacances.
Il a enseigné à l'université.
Il a enseigné à l'université dans l'Ohio, ensuite à l'université
de Boston, et ensuite il est parti à Jérusalem.
Et ensuite il est parti à Jérusalem. Mais pendant tout ce temps-là, il revenait quand même pour les vacances. Il se précipitait à Paris et à Strasbourg. Alors ce que je veux dire, c'est que vu tout ça, il aurait pu être profondément mélancolique et il aurait pu tomber dans la pierre des dépressions. Mais le poème justement lui a permis d'opérer ce que Robert Misery appellerait une conversion, c'est-à-dire de faire en sorte d'accepter cette réalité-là et d'en montrer non pas de la rejeter, mais d'en saisir l'ambivalence. Et c'est ce qu'on trouve, ça, Alfred Dott, qui a parlé de Claude Vigée pour un petit reportage qu'on passera le jour du colloque, montre bien, dans les titres, par exemple, Le parfum et la cendre, L'extase et l'errance, cette ambivalence permanente dans la vision de Claude Vigée. Alors, à la fois, si vous voulez, il veut aller surgir vers la lumière, et en même temps, il a une notion profonde de la réalité. Et c'est ce qu'on trouve, c'est cette tension que l'on trouve dans sa poésie tout du long.
Je vous remercie. Alors, on va bien sûr, on va l'écouter. On va écouter des archives. Oui. On va revenir un petit peu plus précisément sur ces premières années. Peut-être juste un mot sur ce qu'on connaît. On a lu beaucoup Claude Vigée dans les années 70, je dirais en particulier 60-70. Et puis après, c'est vrai qu'il a été un peu oublié en France, en tout cas. Suffit de regarder, par exemple, les archives même de la radio ici sur France Culture, de voir à quel point il était présent. Très présent même sur les ondes, et puis après, beaucoup moins. Alors ça correspond aussi aux années où il a enseigné, où il était loin, où il a enseigné à Jérusalem, et puis sans doute pour d'autres raisons aussi. Vous l'avez dit, il y a eu ce moment donc où il a dû quitter l'Alsace, où il était à Toulouse, qui a quand même été cet endroit-là un point de bascule aussi, et un point fondamental pour la construction, fondateur même, pour l'œuvre à venir, parce que c'est à ce moment-là, dans les rangs de la résistance, justement, je pense en particulier à l'armée juive, qu'il s'est intéressé véritablement à la tradition juive, aux livres, aux textes, un peu plus tard aussi à la Kabbale, alors que lui-même avait été élevé, au fond, dans une famille certes juive, mais assez peu observante,
il avait
assez peu de connaissances. Au fond, ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est la guerre qui l'a fait juif, d'une certaine façon, j'imagine.
Je ne pense pas qu'il l'a poussé
à s'intéresser à son identité juive, en tout cas, puisque c'est à ce moment-là que...
À mon avis, c'est plus progressif et peut-être un peu plus complexe que cela.
Je
c'est pas une remarque désobligeante.
Si
vous voulez, je pense qu'il avait très tôt, justement, face à la situation familiale, où il était quand même désemparé, face à une mère qui était profondément malheureuse, un père qui se détournait de lui, il a réagi. Par exemple, il explique dans Un panier de houblon qu'il s'était construit une sorte de petit sanctuaire portatif, vous voyez, un petit tabernacle à transporter partout pour justement trouver une sorte de, comment dire, de réconfort, d'assurance de lui-même pour se poser quelque part, ce lieu de nulle part, vous savez, dont il parle toujours. Et ça, je pense que c'était déjà les prémices avec la découverte du rythme qu'il a fait la préparation de sa bar mitzvah. Vous savez, on doit lire un texte et c'est une cantillation, c'est une sorte de le rythme intervient d'une façon prépondérante. Tout cela l'a conduit à déjà se construire un univers. Et la poésie, et les poèmes, parce que même s'il n'aimait pas l'école, hein, ça, il y allait vraiment à reculons. Il y a des très beaux poèmes où il se décrit sur le chemin de l'école. C'était difficile pour lui, mais n'empêche qu'il a écouté ses professeurs de français. Il a bien écouté les leçons. Il parle de Shakespeare. Ensuite, en philo, il a découvert Bergson,
qui était très important pour lui.
Oui et non. Ce qu'il m'a expliqué, c'est que Bergson lui a fait découvrir justement l'importance de la conscience. Hein, je disais tout à l'heure, conscience et confiance. Et ensuite, il a donc, si vous voulez, la découverte du judaïsme, l'approfondissement plutôt du judaïsme, a été de pair avec un approfondissement poétique à travers les poètes. Par exemple, quand il était à Toulouse, il a connu Jean Cassou, il a connu d'autres gens comme ça qui l'ont initié à certains aspects de la poésie, et notamment quelqu'un qui lui a fait connaître le Centaure de Maurice de Guérin. Et là, c'est vraiment pour lui un texte qui est très important, parce que ce Centaure, qui est un personnage à la fois homme et animal, qui est donc ambivalent, ce Centaure, c'est une force de vie en mouvement. Quand on lit le texte de Maurice de Guérin, c'est absolument magnifique. Et ensuite, il y a eu Baudelaire, dont il citait souvent, vous savez, dans le poème Bénédiction, qui est au début des Flancs du Mal, le foyer saint des rayons primitifs. Et tout ça, c'est la poétique de Claude Vigée. Alors après, j'ai des notions. Pour moi, il y a deux notions fondamentales, comme je vous l'ai écrit. Il y a l'incestueux Et ça, l'incestueux, je le relis avec ce petit sanctuaire portatif de l'adolescence, de l'enfance et de l'adolescence, parce que c'est le retour sur soi de la conscience, sans autre objet qu'elle-même. Et c'est aussi un appel du « je » vers le « tu », si vous voulez. Hein. Et c'est lié, sa fille, Claudine Singer, me l'a vraiment confirmé, c'est lié avec ce mariage avec Evie, qui était sa cousine. Retour, si vous voulez, par-delà toute cette étrangeté vécue, toute cette inquiétante étrangeté, hein, pour reprendre un terme freudien, vécue, retour à quelque chose qui était soi plus l'autre, plus l'aimer. Vous comprenez? Ça s'appelle l'inceste heureux. Et ça, c'est formidable. Et ça lui a permis aussi toute une critique de la poésie occidentale, voyez. Ne pas aller vers l'objet. Une contestation de l'image aussi. La faille du regard. Ça, c'était absolument essentiel. Et prépondérance aussi, parce que ça a été le sujet de sa thèse dans l'Ohio, Goethe, le démonique et le rythme. Vous savez, chez Goethe, le rythme de diastole et de systole permet que monte cette énergie intérieure que Goethe, dans les conversations avec Hermann, a appelée démonique et qui est cette force entièrement positive. Ça, Goethe le dit bien. Ce n'est pas Méphistophélès qui est un personnage négatif. C'est une force entièrement positive qui s'utilise dans la création. Alors vous pensez, quelqu'un comme Claude Vigée, tout perdu comme ça, dans les accidents de l'histoire, avec des parents qui s'entendent pas, là il y trouve quelque chose. Il y trouve une nourriture. Et cette conscience-là, à la fois poétique et j'hésite à utiliser le mot religieuse, parce que le judaïsme, pour lui, c'est une poétique. Ça, j'en avais parlé avec lui. Je lui avais dit, quand j'avais écrit mon livre en 2015, je lui ai dit, mais Claude, pour vous, le judaïsme, c'est une poétique. Il m'avait dit oui.
Mais il le dit lui-même, hein. Il dit qu'au fond, tout poète, ou tout véritable poète,
c'est tout.
Est lié au destin juif.
Voilà.
Alors, je voudrais juste simplement, on va l'écouter.
Oui, je vous en laisse placer une.
On va l'écouter. Alors, c'est pas moi, c'est Claude Vigée. On parlait de ce que c'était que d'être adolescent, à la fin des années 2000, à peu près, si je me trompe pas. Enfin, disons, mi-temps des années 2000. Donc, voilà ce qu'il en est d'être un enfant dans la campagne barinoise. Dans les années 20.
Je suis né en 21. Évidemment, j'ai parlé le français en famille, dans les grandes circonstances, quand on avait la visite, comme on disait, et à l'école, à partir de la 10e. Et c'est là que j'ai d'ailleurs raconté ça, écrit cela dans un de mes livres, dans La Lune d'hiver. J'ai décrit comment ma classe, enfin nous étions une trentaine de gosses à peu près, 30-35, comment s'est passée la première leçon de français. De ça aussi je m'en souviens, comme si c'était de ce matin, parce que cela m'a profondément marqué, non pas par sa drôlerie, à l'époque maintenant je vois la drôlerie, mais parce que c'est l'impact est formidable quand on glisse tout à coup d'une langue qui était comme la nature, comme la nature profonde, le dialecte. Tout ceci est tout à coup mis au défi, nié en un certain sens, et remplacé par un monde sonore absolument étranger. Et l'expérience est vécue en groupe, avec tous les copains et les copines de ma classe d'âge. Donc c'est une expérience sociale, collective, presque un rite. Et à cause de ça, je m'en souviens tellement bien. J'ai bien compris que là, on entrait dans une... Enfin, c'était une initiation, un peu comme l'initiation dans les tribus primitives. La scarification s'est faite de l'intérieur, au lieu de nous brûler des signes magiques sur les mains ou sur le front, ou je ne sais pas où, ou sur les joues, comme dans les tribus d'Afrique, on nous brûlait les signes de l'initiation, les signes de scarification étaient à l'intérieur. C'est en même temps une brûlure et une fête, une rigolade, et beaucoup d'angoisse, car sans cette angoisse que tous les gosses qui étaient dans cette classe à ce moment-là avec moi ont dû subir, je ne m'en souviendrai pas. Et quand la maîtresse d'école, Madame Zimmermann, nous a dit « Mes enfants, maintenant nous allons apprendre le français », mais elle a dit ça en dialecte, puisque la plupart des gosses venant des milieux tout à fait populaires n'auraient pas... Moi, je comprenais cela, puisque chez nous, on parlait le français du dimanche, n'est-ce pas ? Mais la plupart des gosses de Bischwiller, dans les classes populaires, ne parlaient pas le français du tout. Les enfants d'ouvriers, d'artisans, de commerçants, n'est-ce pas ? En 1926, moins de 10 ans après la fin de la guerre de 18, ne parlaient pas du tout le français, pas un mot. Alors la brave Madame Zimmermann, elle a dit ça en alsacien. Jetzt reden wir Französisch, ihr Kinder. Et alors, pour nous illustrer ça, elle nous a dit, un lapin ist a horse. Au milieu de tout ça, il y avait qu'un mot de français, n'est-ce pas ? Il fallait répéter ça. Alors, on trouvait ça tellement drôle qu'un horse puisse être autre chose qu'un horse, qu'on a éclaté de rire. Toute la classe s'est mise à rire. C'était comique, grotesque, inconcevable, et en même temps de la plus haute importance, une initiation magique. Surtout avec ce lapin, c'est pas qui est le lapin de Pâques et toutes ces histoires-là. Oui. C'est pas, oui, il faut comprendre. C'était de la magie. Et bon, c'est à partir de là. Bon, le français, comme tous ceux de ma classe sociale aussi, la petite bourgeoisie, n'est-ce pas ? Le français est devenu la chose majeure. C'était la grande affaire de nos études, ça. Il fallait absolument surmonter cet obstacle. Il fallait l'apprendre et plus que l'apprendre. Autrement, on comprenait bien que nous étions coincés entre deux mondes, là, n'est-ce pas ? Entre le monde roman, au sens large du terme, la latinité, le monde français d'un côté, de l'autre côté des Vosges, et le monde germanique dans son immensité écrasante et effrayante pour nous autres à l'époque, n'est-ce pas ? Après la guerre de 18, de l'autre côté du Rhin. Alors on était pris entre les deux, là, les gosses. Il fallait absolument s'en sortir. Et comme la pratique malheureuse et même scandaleuse des autorités était de dévaluer le dialecte à l'intérieur de l'âme des enfants, et par là même de les dévaluer à leurs propres yeux, de les nier à leurs propres yeux, puisque c'était ça leur véritable... C'était ça le langage natif, c'était donc leur nativité que l'on niait, n'est-ce pas ? Alors, on était vraiment coincés psychologiquement, on était très inquiets, nous autres les gosses. Ceux dont nous étions surgis naïvement, spontanément, c'est-à-dire la naissance dans le dialecte et la vie enfantine dans la liberté du dialecte, cela a été tout à coup nié et réduit à rien, à quelque chose de même pas de dangereux, mais de négligeable, c'est pire. Le mépris est toujours pire que si c'était franchement mauvais. Alors, bon, on nous aurait fait croire que c'est le diable incarné, on aurait lutté contre. Mais c'était rien. C'était simplement une petite erreur du destin qui nous avait tous ces gosses et des milliers autour de nous, fait naître, comme par hasard, dialectophones, un petit peu comme si nous naissions bègue ou boiteux ou louche ou je ne sais pas quoi. C'est ça que ça voulait dire. Quelque chose de... Enfin, on était mal foutu. Du point de vue linguistique, on était des infirmes linguistiques.
Claude Vigée, dans le livre alsacien de la quinzaine, c'était le 18 septembre 1978. Hein, et dans l'entretien par la suite, il parle de lui comme étant au fond une sorte de spécialiste du coincement. Donc il y aura cette langue maternelle qui est le dialecte, alors qui est l'alsacien, alors même si...
Le dialecte basalémanique.
Voilà, qui a ses particularités.
Oui.
Et il va... Et produire des poèmes en alsacien, y compris...
Oui, plus tard, beaucoup plus tard.
Alors qu'il est à Jérusalem. Il fait le lien d'ailleurs entre cette langue-là et l'hébreu.
Oui, c'est vrai.
L'hébreu que lui, au fond, va parler très timidement, dit-il. Hein. Pour lui, c'est une langue...
Il dit qu'il n'a pas fait l'effort suffisant et qu'il ne sera jamais un poète en hébreu.
Et donc, il y aura la langue maternelle qui est... cette langue dialectale, et puis ce qu'il appelle, lui, la langue paternelle, hein, qui serait l'hébreu, d'une certaine
Mais
façon.
Mais entre-temps, il y a justement, au début, si vous voulez, cette langue alsacienne dans laquelle il est né, avec l'apprentissage du français, on le sent bien dans ce que nous venons d'entendre, ça a été une douleur. Et si vous avez remarqué, il a employé le mot « bègue ». Et ça, c'est extraordinaire, parce que je disais qu'il avait tout converti. Mais là, dans la faille du regard encore, hein, toujours dans cet essai dont je parlais tout à l'heure, il insiste bien sur le fait que Moïse a entendu la révélation dans le buisson ardent. Il a entendu, en quelque sorte, le murmure du silence. Le murmure est un mot extrêmement important chez Claude Vigée. Il insiste sur le fait que Moïse, redescendant du Sinaï, retranscrivant cette parole perçue pour le peuple hébreu, est bègue. Moïse est bègue. Et vous voyez, et donc il a un mal fou à retranscrire cette parole. Et le poète se projette, le poète écrit. Il est difficile de transposer le discours potentiel, inarticulé, encore presque silencieux de la transcendance dans la sphère de nos représentations sensibles. Oui, il est malaisé d'être poète, de saisir, puis de décrypter, de traduire, de transcrire ou d'enregistrer la voix d'en haut au moyen du langage articulé. Et un peu plus loin, il dit, et ça c'est aussi un mot qu'il a employé dans ce qu'on vient d'entendre, c'est ainsi que la parole vole intacte vers autrui, jusqu'à nous, en passant par la bouche humiliée de Moïse, homme d'Élohim, comme si elle glissait à travers les lèvres d'une blessure. Mais alors, justement, il y a une autre notion qui, à mon avis, est directement liée, et vous allez voir, je vais revenir à la langue, il n'y a pas de problème.
On n'a plus beaucoup de temps, c'est
pour ça. Voilà, qui est complètement liée à l'inceste heureux, c'est-à-dire ce retour sur soi et ce choix de soi-même, ce choix de la vie en se choisissant soi-même individu pour aller vers l'autre, c'est la circoncision de Dieu. La circoncision de Dieu, c'est à partir du sacrifice d'Abraham, qui est un sacrifice qui, grâce à la parole, grâce à la coupure du vocable, c'est dans la lune d'hiver en 1970, n'a pas lieu. La parole peut transcender le tragique, et ça c'est important. Donc la langue aussi, il a transcendé cet embarras, si vous voulez, cet aspect un peu bègue d'une langue qui dont ne sait pas que faire et qui a été détrônée pour une autre. Et ça aussi, ça a fait de lui un sujet, parce qu'il dit « Dans mon imagination, les natifs d'un langage sont nés en lui qui leur sert de berceau, ils ne savent même pas qu'ils ont une langue. » Et Claude Vigée, lui, il savait qu'il avait une langue, et donc qu'il pouvait en faire un usage poétique profond. Et il a dit ensuite, dans Les Orties Noires en 1984, « Gosse de Bivillers, hors des salles d'asile, à partir d'aujourd'hui peut-être, ne vous fait-on plus honte qu'en plein de toupets dans les rues, sans respect pour les convenances, même sous les yeux des gens bien, vous osez entre vous gaiement, si le cœur vous en dit, laisser trotter au vent votre langue natale. »
Alors on va juste, avant de nous quitter, écouter justement Claude Vigée disant un extrait justement des Orties Noires. Alors il nous faudrait beaucoup beaucoup plus de temps pour en parler, mais il faut le lire.
« Von den Gemurmel de Werther, wo längst vergessene Stimme frier ganz liesli. »
Parfois je crois surprendre un écho dans l'oreille de ces mots murmurés.
« So rieselt der Landreihe im Spätjahr, geduldig durch dirri Blätter. »
Que des voix de jadis,
am Rand vom Kröje Laubwald,
depuis longtemps perdu, disaient presque en silence.
« Und dröpfelt dann in d'Erd. »
Ainsi suinte la pluie de campagne en automne.
« Miesele still, wie saut. »
À travers les feuilles mortes,
ganz tief, durchdrunde,
avec tant de patience,
im schwarzen Sängeselpfad,
à la lisière du petit bois de chêne gris et touffu, où le ruisseau rouge chuchote. Puis elle s'enfuit, goutte à goutte, dans la terre, à pas de sourisseau, comme fait la semence, par le chemin profond, la sente aux orties noires.
Anne-Monique, Simon Joannin, c'est la fin de cette émission. Merci à tous les deux. Je signale qu'un colloque consacré à Claude Vigée, à votre initiative et à celle de Daniela Pickstein se tiendra dimanche fin novembre, le 28 novembre, si je ne dis pas de bêtises, le 29. Le 29 novembre à l'Institut Elie Wiesel. Aujourd'hui à la technique Clément Daté, à la préparation Thierry Beauchamp et à la réalisation Hélène Trigueros. Vous pouvez réécouter et partager cette émission sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. Quant à nous, on se retrouve vendredi prochain, même heure, même endroit. Bon après-midi à toutes et à tous.